J'ai repris un petit CV d'un certain nombre des membres de la commission parlementaire et c'est assez instructif. Bon, André Gérin, tout le monde connaît à peu près. Arlette Grosskopf, avocate, députée du Haut-Rhin. Sarkozy lui a préféré Jean-Marie Bockel et elle en est toute désolée. Elle se console comme membre du noyau parlementaire fondateur du groupe de spiritualité des assemblées parlementaires. Daniel Hoffmann-Rispal, député de Paris, proche du CRIF, le dit elle-même. Georges Motron, chef des ventes, député UMP du Val-d'Oise, qui est aussi signataire de la proposition de loi sur le rétablissement de la peine de mort et l'inventeur de l'utilisation du répulsif anti-SDF. Nicolas Perruchot, consultant en entreprise, député du Loir-et-Cher et tombeur de Jack Lang, auteur d'une proposition de loi dans la lignée du rapport Hadas-Lebel et visant à créer une commission d'enquête sur le financement des syndicats. Proche du diocèse, il soutient la radio RCF, Radio Chrétienne France, avec les fonds personnels de sa réserve parlementaire. Françoise Hostalier, que vous connaissez, qui écrivait dès 2001 « Nous devons justement tirer les leçons de l'histoire, alors justement gardons les yeux ouverts, nous sommes aujourd'hui frappés de plein fouet par le fascisme islamique. » Mais cela ne doit pas nous faire oublier les autres dictatures. Le gouvernement vietnamien profite des événements internationaux pour augmenter la répression et étrangler chaque jour un peu plus tous ceux qui luttent pacifiquement pour défendre la liberté de conscience, la liberté religieuse, la dignité des femmes et des hommes au Vietnam. Le moins qu'on puisse dire, je retiendrai simplement une phrase, c'est sur la liberté religieuse qu'elle assimile à la liberté de conscience, ce qui n'est pas exactement notre propos. Christian Bataille, professeur de lettres, député du Nord, il faut bien citer un bien, je te dis. Il est signataire de la proposition de loi de sa langue visant à rétablir et préserver le monopole de la collation des grades universitaires. Et donc, il est à notre côté, ou nous sommes à son côté, sur la question de l'abrogation de l'accord Kouchner, enfin des conséquences de l'accord Kouchner-Vatican. Éric Raoul, député UMP de Seine-Saint-Denis, qui devait être le rapporteur, qui est le rapporteur, alors qu'au départ, il était prévu par le texte qui instituait la commission, que ce soit Françoise Hostalier, qui est aussi signataire de la proposition de loi sur le rétablissement de la peine de mort, inventeur de l'utilisation du couvre-feu au Rhin-Sy, président de l'association des élus Amis d'Israël, il a déposé une proposition de loi visant à rétablir le délit de blasphème. Éric Diard, consultant en gestion, député du Bouches-du-Rhône du MP, j'ai rien trouvé sur lui, Christophe Guillotot non plus, j'en passe, Pierre Cardot, que l'on connaît, hein, qui était lui le tombeur de Rocard, et qui est plutôt contre et qui a expliqué qu'il était contre la... Il a combattu le projet de loi 2004 en expliquant qu'elle stigmatiserait les musulmans. Il a aidé aussi au financement de la mosquée de Sainte-Louis-les-Vignes. Lionel Lucas, alors là, lui, c'est un type très intéressant. Lionel Lucas, député UMP des Alpes-Maritimes et enseignant dans le privé. Il est l'auteur d'intéressantes propositions de loi. Il en collectionne, lui aussi. La dernière en date des proposant d'établir une journée de commémoration des victimes des régimes communistes, une autre loi contre le droit de grève dans les transports, et aussi de la fameuse proposition de reconnaissance du génocide vendéen. Auteur de propos qui ont fait plaisir aux Antillais, ceux qui aux Antilles font toutes sortes d'amalgames avec l'esclavage ne crachent pas sur le RMI des anciens colonisateurs. Soutien du Dalai Lama et président du groupe d'études sur le Tibet, il est également membre des instances dirigeantes de France-Israël. Un personnage qui est proéminent, disons. Gilles Bourdoulex, le dernier, parce qu'il est chez moi, chargé d'enseignement, député du Maine-et-Loire, maire de Cholet, membre de l'UMP, mais au titre du Conseil national des indépendants. Il s'est opposé au projet de loi sur le voile, mais le 10 septembre, dans une interview à Minute, il se prononce pour une loi interdisant la burqa. Signataire d'un projet de loi visant à établir la proportionnelle nationale, il s'est prononcé contre le travail du dimanche au titre du catholicisme, et il s'est prononcé pour le rattachement de Cholet à la Vendée. Voilà. Qu'un petit tour d'horizon, parce qu'il faut quand même savoir qui est qui dans ces affaires-là. Ceci dit, je vais essayer de faire un tour assez complet des réflexions qui ont été entreprises. Même samedi dernier, au colloque sur la bioéthique, à propos de la bioéthique, sur le statut de l'embryon, auquel nous avons participé à quelques-uns ici, qui était un excellent colloque, et qui prouve qu'il y a un certain nombre de professeurs de médecine qui ont envie de se battre à nos côtés pour faire changer la loi et faire acquérir, avec un débat très sérieux, davantage de liberté aux femmes et aux hommes sur les questions qui sont posées là. Et j'ai intégré une ou deux réflexions que j'ai entendues là-bas. Donc, affubler un homme d'une robe noire et pratiquer sur la partie la plus visible de son crâne une mutilation physique, j'ai nommé la tonsure, même avec son accord, est extrêmement contestable et pourrait être considéré comme un traitement indigne. Vous savez que le premier stade d'être un clerc dans la religion catholique, c'est lorsque on doit respecter, et ça a rapport évidemment, la chasteté dès lors que l'on est tonsuré. Et la tonsure, c'est fait précisément pour vous indiquer comme le type qui est obligé de respecter la tonsure. C'est une des raisons pour lesquelles, lorsqu'en 1901, le maire de Kremlin-Bicêtre, qui était alors une commune, et un certain nombre de ses confrères prirent des arrêtés pour interdire le port de la soutane, il s'était rendu sympathique aux libre-penseurs. Ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui qui ont réédité son arrêté sous forme de carte postale. Pourtant, dès l'époque, la sympathie n'est pas forcément l'accord, dès l'époque, la décision faisait débat dans la libre-pensée. Il faut lire cet arrêté dans sa totalité si on veut en comprendre les termes. La date d'abord, nous sommes en 1901, avant la loi de séparation de l'Église et de l'État. Le terme de fonctionnaire ensuite, c'est parce que les prêtres étaient fonctionnaires qu'on pouvait leur imposer un uniforme ou leur en interdire un autre. Pourtant, les libres-penseurs qui ont été amenés à se prononcer à l'époque ont globalement considéré la mesure comme inutilement vexatoire et n'ont pas soutenu les maires en question. L'IRELP a déjà rendu compte de cette discussion dans un numéro de l'Idée Libre, l'Institut de recherche et d'études de la libre-pensée. Bonsoir. Mais après 1905, donc la loi de 1905 est applicable, les prêtres ne sont plus agents de l'État, et par conséquent, comme aurait dit Mao, 1000 soutanes peuvent s'épanouir, sans que personne n'y trouve malice. Le débat n'a plus lieu d'être, puisque c'est passé d'une situation où les prêtres étaient fonctionnaires à une situation où ce sont des citoyens qui se comportent comme ils veulent, ou comme ils peuvent. Je méfie par ailleurs du terme « dignité », et il y a une discussion intéressante là-dessus samedi dernier, parce qu'on veut préserver la dignité des hommes, la dignité des femmes, etc. Mais si j'ai bien compris, les femmes doivent avoir une tenue digne, ce qui n'exclut ni la robe de bure, ni le string ficelle, ni le string de bure, mais ça doit gratter, ni la robe ficelle. Bref, il faut que les femmes soient dignes comme Madame Bruni Sarkozy, comme la Cicciolina, comme la reine Fabiola, bien que celle-ci eût parfois porté la mantille, et comme Élisabeth II d'Angleterre, bien qu'on puisse estimer que ses chapeaux soient par eux-mêmes de nature à faire désespérer l'humanité. Bon, mais passons à la plaisanterie. Ce que veulent dire les comportements vestimentaires, ça veut dire quoi? Que les comportements vestimentaires correspondent à une composante symbolique extrêmement forte, qu'il s'agisse d'un étui pénien, d'un tablier de franc-maçon ou d'un pantalon. Nous y reviendrons tout à l'heure, et c'est un des aspects du problème. Fidèle à sa tradition, la Fédération nationale de la libre-pensée se prononce résolument pour la pleine égalité des droits des femmes et des hommes. Elle refuse toutes les oppressions religieuses, sociales, économiques, politiques et culturelles. La libre-pensée considère toutes les discriminations, quelques des dénominations qu'elles portent, comme profondément contraires à la démocratie, à la République et à la laïcité. La discrimination est par essence contraire à l'égalité et par suite à l'émancipation humaine. Au nom de la défense des principes des droits de l'homme et du citoyen, qui sont ceux de tous les hommes, quel que soit leur sexe, leur couleur de peau et leurs origines ethniques, elle condamne toute forme d'oppression par les dogmes, les traditions religieuses et les superstitions, d'asservissement politique, de discrimination sociale ou de conditionnement vestimentaire. Elle insiste de nouveau sur l'indispensable effort d'éducation que la République doit mettre en œuvre, à l'école publique en particulier, pour une société républicaine, fraternelle et laïque, débarrassée de préjugés, base même de l'harmonie entre des citoyens égaux. Seule la pleine, complète et véritable égalité des droits entre tous peut conduire à une réelle émancipation humaine. Voilà les questions auxquelles nous acceptons de répondre parce que nous les sommes posées. Maintenant, il faut aborder aussi la question dont d'autres posent des problèmes. Et je vais d'abord procéder à un tout petit historique depuis les foulards de Creil. Concernant l'école, le débat sur les signes religieux ostentatoires a si bien pourri la situation entre 89 et 2004, que tout le monde appelle maintenant la loi de 2004, loi sur les foulards islamiques. Nous avons dit à l'époque, en substituant ce qu'on appelle aujourd'hui les accommodements raisonnables aux principes laïques, on a ainsi créé un texte que j'estime et que nous estimons anti-laïque. Rappelons qu'il y a deux moments dans l'application de cette loi du 10 juillet 1989, loi d'orientation, dite aussi loi Jospin, le premier moment est la désanctuarisation de l'école, c'est-à-dire l'introduction des patrons et des intérêts locaux par la gestion tripartite. Le corollaire en est, concernant les élèves, le déploiement identitaire des droits d'expression qui est prévu par l'article 10. On a autorisé les droits d'expression. Comme un élément du fonctionnement du lycée. En 1989, en quelques mois, la situation a été modifiée. Un des premiers événements s'est produit d'ailleurs à Angers, puisque c'était la famille Kerrois que je connaissais. C'est l'arrêt Kerrois qui a été le premier arrêt du Conseil d'État. Donc, il faut rappeler l'histoire des foulards de Creil, parce qu'en plus, on en a eu un deuxième retour. Ça a commencé sur une question qui concernait les rythmes scolaires. Des élèves de religion israélite refusaient de venir travailler le samedi matin. Et le principal du collège a pris des sanctions. Et comme il ne voulait pas passer pour antisémite, il a dit « je vais aussi taper sur une autre communauté ». Et il a forcé les gamines à enlever le foulard. Mais comme le principal avait été à la fois catho et RPR à l'époque, et que certains journaux s'en sont emparés, ça a donné une mousse considérable. C'est ça qui a été au départ le point de vue. À l'époque, Jean-Marie Le Pen déclarait « il n'y aurait pas d'affaires de tchador ni beaucoup d'autres problèmes en France s'il y avait un courant d'immigration tout à fait, s'il n'y avait un courant d'immigration tout à fait excessif ». Quand on va chez les autres, c'est important parce qu'on retrouve ce discours chez nous, chez les autres aujourd'hui, on se conforme à leurs mœurs et leurs coutumes. C'est de la plus élémentaire politesse. Quand on ne se croit pas capable de le faire, on rentre chez soi. Ceux qui portent une croix sont chez eux. Et quand on porte une croix, on ne la porte pas sur la tête. Bon. Vidéo que j'ai retrouvée sur le site de l'INA en préparant cette discussion. On peut comparer cette citation avec d'autres plus récentes. Elles sont les mêmes qui nous proposent aujourd'hui la lutte contre l'islamofascisme et qui tiennent ce type de discours.
Une bonne radio, ça serait une radio où il y aurait de la musique, et quoi, du jazz, de la chanson, et puis des trucs qui bougent, quoi, du rock, du rap, et aussi du reggae, un peu de classique, mais je voudrais aussi des informations.
On est là dans une logique impérialiste.
Des opinions.
Moi, je vais te donner mon point de vue.
Des interviews.
Moi, je sais pas jamais pourquoi.
La politique, quoi.
Nous sommes le contre-pouvoir.
Ça déconne, hein.
Elle était violente, cette crise.
Tout ça, surtout, sans publicité. Et bon, des radios comme ça, ça existe pas. Y'en a pas.
Mais t'es con, quoi.
Ce foutu mélange, c'est Radio Campus, qu'on écoute sur 106,6. T'as marché sur le fil du micro.
Le deuxième moment, c'est le décret sur les signes ostentatoires, volontairement flou, pour ressembler à une non-prise de position. Et ça a toujours été revendiqué par Jospin comme tel. Une non-prise de position qui a dit « Moi, j'ai inscrit ça dans la loi. Maintenant, il appartient au Conseil d'État de définir ce que j'ai voulu dire dans la loi. » Ce qui est quand même particulier comme démarche. C'est ce que on appelle aujourd'hui la doctrine des accommodements raisonnables qui a été pratiquée et qui a créé beaucoup de difficultés, au Québec en particulier, puisque le rapport Bouchard-Taylor qui a été publié cette année était fait pour évaluer les résultats de cette politique où on n'a plus de principe du tout, mais où à chaque fois qu'il y a des incidents intercommunautaires, on adapte. Et on transige, et on infléchit d'un côté, on infléchit d'autre. C'est la situation à laquelle est confrontée la Belgique. Et la réaction, et j'étais hier aussi pour discuter un petit peu de tout ça, et j'ai plus d'éléments, je t'en parlerai après la discussion que j'ai eue hier soir, le Centre d'action laïque de Belgique a décidé de demander clairement cette fois-ci une séparation institutionnelle de l'État et des confessions religieuses en Belgique, prenant en compte tous les problèmes, et pas seulement les problèmes du voile, de telle sorte qu'on rétablisse les choses. Donc on va avoir une discussion, je pense, très intéressante avec nos amis belges pour faire jouer les synergies, comme on dit aujourd'hui. Donc, ce dont il est question aujourd'hui, et ça se sent à travers mon propos, je pense, c'est lorsqu'il s'agit de niqab ou de hijab, il ne s'agit pas de dignité ni de religion dans la tête de ceux qui posent la question. Il s'agit d'autre chose. Et quitte à provoquer, moi je dirais pour ma part, que les réactions que je dis aujourd'hui me font parfois penser, non pas à l'Arabie Saoudite, mais à l'Algérie de ma jeunesse, lorsque j'avais peur d'y aller à l'armée, lorsque les militaires pouvaient arracher les voiles des Fatma, certaines réactions me font plus penser à ça. Le port d'un vêtement peut faire partie d'une revendication politique, et en l'occurrence, c'est très souvent une revendication politique. Le bonnet phrygien est une revendication politique. Le keffieh est une revendication politique au départ. Elle peut aussi être l'instrument d'une manipulation politique. D'ailleurs, les islamistes ne s'en privent pas. Le problème dans ces cas-là, souvent, c'est qui manipule les islamistes. Rappelons tout de même prudemment que la planète entière vit sous un régime, que je ne rappellerai pas un régime islamiste, mais un régime capitaliste. Un mode de production capitaliste, la société est divisée en classes sociales et la classe dominante, la bourgeoisie, propriétaire des grands moyens de production et d'échange, use de nombreux moyens pour limiter la puissance de la seule classe susceptible de lui créer des problèmes ou de la renverser. Le prolétariat, j'énonce des vieilles choses, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent offrir sur le marché que leur force de travail. Prenons un exemple de ce à quoi il faut faire attention. Les martyrs de Tibérine. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi cette affaire, parce qu'elle est revenue au premier plan récemment. Viennent de revenir dans l'actualité. Et il s'agissait d'une trappe cistercienne aux portes du Sahara, et un certain nombre de moines avaient été assassinés, soi-disant, par le fils. En 96, j'avais remarqué à l'époque, puisque je faisais à l'époque une conférence qui s'appelait « Les religions facteurs de guerre », et j'avais creusé cette question-là avec les écrits d'un certain nombre de journalistes qui avaient publié là-dessus. Que dans le personnel de cette trappe, la plupart des salariés ou des bénévoles étaient des travailleurs croates. Bon, je veux bien. Les travailleurs croates au service de moines bénédictins en plein Sahara. J'ai trouvé aussi que la plupart des moines massacrés, sauf un, avaient un passé lié aux forces spéciales. C'est bien Google, on peut aller voir qui était qui, etc. Ils avaient tous été dans les forces spéciales d'une façon ou d'une autre, soit en Indochine, soit en Algérie, soit à Madagascar. Donc ils avaient tous un passé, une liaison avec les services français. Et nous nous situions dans un contexte où les Chinois disputent, l'impérialisme chinois, si j'ose dire, dispute à l'impérialisme français les marchés en Algérie. Bon. Ainsi, l'Iran aujourd'hui, et c'est plus proche de l'actualité, parce que j'ai tendance à considérer, mais ça c'est une position personnelle, que tout ce ramdam vise, comme au moment de les armes de destruction massive, etc., à préparer une éventuelle intervention militaire. Du moins, ça rentre dans ce contexte-là, d'une guerre toujours possible. Bien. Nous avons été sommés de défendre l'orientation de politique de religieux modérés, conduit par un ancien premier ministre du régime des Ayatollahs, contre le clan des durs conduit par le féroce Ahmadinejad. Or, voilà 10 mois qu'on apprend que derrière les manifestants on trouvait Rafsanjani, l'un des hommes les plus riches d'Iran, grâce au contrat d'armement américain de l'Iron Gate. Donc, il y a certes des problèmes de liberté, des problèmes de liberté de conscience en Iran, c'est le moins qu'on puisse dire. Yeah. Mais il y a aussi, et il y a aussi en France, une crise économique, politique et sociale dans laquelle on a très largement intérêt à faire que les gens se bagarrent plutôt entre eux plutôt qu'ils se bagarrent pour leurs droits communs. Savoir manipuler les peurs fait partie de l'arsenal classique. Et puis pour finir avec cette question, est-ce une prescription religieuse ou non, je voudrais faire une observation. J'ai remarqué qu'en Belgique comme en France, les pourfendeurs des sectes sont aussi, c'est un peu passé de mode ça, ceux qui veulent légiférer sur la burqa. Je pense à Anne-Marie Lizin et à Jacques Myard, par exemple, qui fait partie de la commission. Sur les sectes, je vous invite à lire l'excellent petit ouvrage d'Anne Morelli, « Lettre ouverte à la secte des adversaires des sectes ». Anne Morelli est la vice-présidente du Centre international d'études des religions et de la laïcité à l'ULB. Et elle était l'organisatrice de ce mois Francisco Ferrer à l'ULV. Est-ce que la question du niqab ou de la burqa est une question religieuse ? La réponse est « je m'en fous ». Parce que quand on va demander à des imams, à Boubaker ou à d'autres, ça veut dire qu'on va les demander au pape. Si c'est vrai que l'Église interdit l'avortement, ben il va répondre oui, l'animal. Donc le fait de demander à une autorité religieuse, si c'est bien vrai que ceci est de sa compétence, va le porter immédiatement en position de pouvoir, à la fois vis-à-vis des gens qui se réclament de sa religion et vis-à-vis du public en général. En revanche, d'ailleurs, c'est la position que je viens de vous indiquer, fort heureusement actuellement, la position, pas celle du Conseil d'État, qui est de plus en plus politiquement pour une conception de la laïcité ouverte. Mais, c'est-à-dire une laïcité intercommunautaire. Mais la Cour de cassation a gardé cette position-là. En revanche, la liberté pour l'individu de se mouvoir librement dans l'espace public a également une histoire, et je vais vous en parler un petit peu. Nous avons eu droit récemment, contre un principe qui a été affirmé pour la première fois par la Révolution française le 26 août 1789, qui est le principe de sûreté, qui est que chaque citoyen peut se balader librement sans être victime d'arrestations arbitraires dans la rue. Or, nous avons eu récemment la vidéosurveillance, légalisation, la question du couvre-feu préfectoral désormais autorisé par une loi de 2005. C'est une entrave, une entorse en tout cas, à la liberté d'aller et venir. L'adoption d'un texte législatif sur la burqa et le niqab serait une autre atteinte. Et puis la question des coffres de voiture que j'ai oublié. Je me souviens de mon premier collage d'affiches en 1965 pour l'élection de François Mitterrand contre le général de Gaulle. J'avais 18 ans et on mettait les affiches sous le bras et on allait coller et on nous disait 1. N'emportez pas de pièces d'identité. N'emportez pas de pièces d'identité. Emportez un billet de 5 francs. Parce que la loi était telle à l'époque qu'on ne pouvait en aucun cas demander une pièce d'identité à quelqu'un, que le seul délit pour lequel on pouvait vous poursuivre, sauf éventuellement dégradation de monuments publics, si on se faisait choper les affiches, on avait des techniques pour ne pas se faire coller, c'était le délit de vagabondage si on n'avait pas au moins sur soi 5 francs. On n'en est manifestement plus là, à force de réduire le champ des libertés publiques. En réalité, depuis la Magna Carta de 1215 jusqu'à l'Habeas Corpus, du Bill of Rights de 1689, de la Déclaration de l'indépendance américaine à la Déclaration des droits de l'homme de 1789, les peuples et la bourgeoisie qui se constituaient en classe contre la noblesse ou contre les coloniaux ont revendiqué et parfois obtenu des avancées sur un point précis, le droit de se mouvoir dans l'espace public sans que être ennuyé par les archers du roi. Si on adopte une loi sur la burqa, on va aider Sarkozy à avoir une mesure de plus. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que la burqa ? Je vais... ça a des antécédents, là aussi, dans le passé législatif en France. Sous l'Ancien Régime, je vais faire une citation, je crois qu'elle est de Nicole Pellerin, de la revue Clio. « La mobilité sociale est aussi porteuse de déshabillage-rhabillage, puisque toute promotion... changement de fortune ou de statut, doit être visualisé. Le système de cour fait évidemment grand usage de ces rituels vestimentaires qui marquent une réussite d'accès convoité au bal paré, où seuls peuvent danser certains cordons bleus, ça vient de là, et talons rouges. Mais il n'est pas de communauté professionnelle qui ne sache jouer de ce langage commode pour distinguer ses membres des ordres religieux aux mendiants autorisés, en passant par les maîtres, compagnons et apprentis des corporations. L'habit fait, dénonce et fabrique l'homme et donc la femme. » Ça va être codifié par des lois sous Philippe le Bel. Les lois somptuaires, qui tirent leur nom des subtuariers légués de la République romaine, sont utilisées en France à partir de Philippe le Bel pour réprimer l'extravagance des costumes. Sous François Ier et Henri IV, on enregistre 11 lois somptuaires. On y lit notamment que les bourgeois ne doivent pas avoir plus d'un laquais habillé de bure brune et non de drap teint. Le velours est interdit aux laboureurs et aux gens de basse condition. Michel de Montaigne écrit un essai à ce sujet, des lois somptuaires. Et il y critique une mode nouvelle, celle des braguettes très voyantes, qui mettent en avant ce vain modèle et inutile d'un membre que nous ne pouvons seulement honnêtement nommer, duquel toutefois nous faisons montre et parade en public. Bon, puisqu'il y avait un costume qui est un moule-burne, bien. D'ailleurs, Montaigne s'est opposé à cette loi. Si l'on dit en effet que seuls les rois mangeront du turbot, porteront du velours et des tresses d'or et que cela est interdit au peuple, et faire croître en chacun d'entre nous justement l'envie d'en disposer, et que cela est interdit au peuple, on fera croire en chacun d'entre nous justement l'envie d'en disposer. Et moi je prétends que dans un quartier comme le mien, dans une commune de banlieue qui ressemble un petit peu en moins grand à ceci, que pour l'instant, il n'y a pas à ma connaissance il y a 80 ou 90% des filles qui portent maintenant le foulard. S'il y a une loi sur le niqab qui est adoptée, on va trouver 20 à 30% des nanas qui vont se voiler complètement le visage. J'en suis vraiment persuadé aujourd'hui. Montaigne emploie des arguments pédagogiques. Il dit, avec humour, hein, la loi devrait dire au contraire que le cramoisi et l'orfèvrerie sont défendus à tous, sauf aux battleurs et aux courtisanes. C'est de cette façon que Zéleucos corrigea les mœurs corrompues des Locriens. Je suis allé voir un petit peu après. Voici quelles étaient ses ordonnances. Que la femme de condition libre ne puisse se faire accompagner de plus d'une chambrière, sauf quand elle sera ivre. Parce que là, il en faut deux. En réalité, à ceux qui objectent que niqab et burqa sont bien des revendications politiques qui témoignent d'un refus d'intégration, je dis oui. Et alors ? Dans le conseil municipal de Jean Monnier, qui était à l'époque au Parti Socialiste et qui en a été viré, à Angers, il y avait un représentant de la nouvelle action royaliste, qui donc par définition, il s'appelle Nicolas Lucas, il est toujours actif politiquement, et donc par définition, il n'était pas favorable à la République puisqu'il était monarchiste. Je suis en désaccord avec le point de vue politique exprimé, évidemment, par la burqa niqab. Mais je ne demande pas l'aide de la police pour le combattre. Le pouvoir religieux a aussi, et c'était de façon beaucoup plus brutale souvent, imposé des vêtements. Par exemple, le concile de Latran de 1215, fait par le pape Innocent III, instaure à la fois le port de la rouelle, une roue brodée sur le vêtement, et un costume spécial pour les juifs, reprenant en cela des prescriptions antérieures chez les musulmans, parce que précisément il y avait dans les pays conquis par l'islam, il y avait besoin de séparer les communautés. Il y avait au Moyen-Orient à l'époque un costume pour les chrétiens, un code vestimentaire pour les chrétiens, un autre pour les zoroastriens, le concile de Latran s'est à copier cela en 1215. Et je lis un extrait de ce que disait le concile de Latran là-dessus. Dans certaines provinces, les habits des juifs et des sarrasins se distinguent de ceux des chrétiens. Mais dans d'autres, un degré de confusion se produit, de sorte qu'ils ne peuvent pas être reconnus par aucune marque distinctive. Comme résultat, par erreur, des chrétiens ont des rapports sexuels avec des femmes juives ou sarrasines. De façon que le crime d'un tel mélange maudit ne puisse avoir plus d'excuses dans le futur, nous décidons que les juifs et les sarrasins des deux sexes, dans toutes les terres chrétiennes, se distinguent eux-mêmes publiquement des autres peuples par leurs habits. Conformément au témoignage des Écritures, un tel précepte avait été donné par Moïse dans le Lévitique, etc. Ainsi, les Juifs du ghetto de Venise durent porter le bonnet jaune et ceux d'Avignon, un chapeau jaune. Quant aux femmes, n'oublions pas que le quatrième chef d'accusation du procès de Jeanne d'Arc, qui était un procès religieux, était qu'elle s'était vêtue en homme, ce qui était contraire au droit canonique. Je pense que la citation, elle est un peu longue. Mais il y a un excellent... J'ai une bonne amie qui s'appelle Christine Barr, qui est directrice de la Maison des sciences humaines à l'Université d'Angers, qui va sortir bientôt, pub gratuite, une histoire du pantalon, et qui témoigne de cette revendication politique des femmes depuis Olympe de Gouges jusqu'à 1968 pour porter le pantalon. Alors, dans ce domaine, comme dans bien d'autres, c'est la Révolution française qui va constituer un tournant. Non seulement les révolutionnaires contestent les codes vestimentaires en adoptant le pantalon, d'où le nom de sans-culottes, et la veste courte, la carmagnole, mais ils vont, et quelquefois les armées de Napoléon poursuivront l'ouvrage, notamment en, en Italie, hein, puisque Napoléon voulait en plus non seulement libérer les Juifs, mais voulait faire un foyer national juif en France. Bien, c'était ça, son idée à lui. Ça nous aurait posé moins de problèmes là-bas. Bon. Je ne sais pas si c'était une bonne idée quand même. Alors, il voulait donc libérer les Juifs du pape, en particulier à Avignon, etc., de leur statut de seconde zone, et puis les Juifs des grandes villes de Rome et ceux de Venise. À Venise, c'était encore plus particulier, mais ce n'était pas la seule ville. Les Juifs étaient enfermés dans le ghetto avec des gardes et un couvre-feu le soir. C'est-à-dire que le soir, on enlevait les passerelles pour aller dans le ghetto de façon à ce qu'aucun Juif ne puisse plus entrer et sortir. Et le soir, ils revêtaient leur bonnet pour aller vaquer en ville. Bon, désormais, après la Révolution française, chacun s'habille comme il veut, ou du moins comme il interprète les codes sociaux qu'il concerne, parce que ni moi ni vous, nous avons, bon, notre volonté est elle-même très influencée par autre chose. C'est pas tout à fait vrai quand même, parce que comme je l'ai indiqué, pour la femme, le pantalon reste toujours interdit après la Révolution française. Le premier à avoir fait un scandale à propos du pantalon, ben c'est un libre-penseur, adhérent de la Fédération nationale de la libre-pensée. C'est Victor Marguerite, qui en écrivant La Garçonne en 1920, a créé un scandale, parce qu'il mettait en avant à la fois La Garçonne, un problème sur l'identité des genres, et un problème sur l'homosexualité féminine, ce qui était beaucoup pour la bourgeoisie bien-pensante, et même pour l'opinion bien-pensante en général. Mais lorsqu'on parle de la burqa et du niqab, on n'est plus sur ces considérations historiques. On nous dit, oui, mais tout ça, c'est... Mais là, l'Afghanistan est à nos portes. Non, l'Afghanistan n'est pas à nos portes. Les armées françaises sont en Afghanistan. C'est nous, nos troupes, je mets des guillemets, évidemment. L'armée française qui est en Afghanistan. Et pas contre la burqa. Ça saurait depuis le temps qu'ils occupent Kaboul. Mais aux côtés de l'impérialisme américain pour des motifs économiques et stratégiques. La question de l'utilisation de l'espace public par les religions, je pense qu'on y reviendra dans la discussion tout à l'heure. En revanche, il faut examiner l'hypothèse implicite des partisans de l'interdiction, la menace islamique. Admettons que, un instant, que le choc des civilisations soit la réalité du monde contemporain. Auquel cas, si c'est la réalité et qu'on se place d'un côté, il faut en tirer toutes les conséquences. Et il y en a qui commencent à le faire, à mon avis. Bien. Il faut se ranger derrière l'Occident chrétien. Et il faudra le dire assez rapidement, ça gagnerait du temps. Et puis, comme ces choses-là sont pleines de conséquences pratiques, il faudrait soutenir Medvedev en Tchétchénie et en Ingouchie, soutenir l'Arménie chrétienne, la guerre en Irak et en Afghanistan, intervenir au Soudan, partager la base aérienne de N'Djamena avec l'US Air Force, c'est ce qu'ils essayent de faire, hein, bon. Soutenir Israël, qui, comme chacun sait, est un rempart pour le christianisme, réprimer l'immigration sauvage, revoir le système des allocations familiales, appliquer une discrimination positive aux Français de souche, j'en pense c'est les meilleurs. Dans ce cas-là, je pense que Sarkozy accorderait l'audience que la libre-pensée lui réclame depuis un petit moment, à peu près sans problème. Dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, les intérêts chinois, européens, américains vont continuer à s'affronter sur fond de contraction des marchés. Il y aura des dizaines de milliers de licenciements. Et n'en doutons pas, on va encore beaucoup parler de la commission parlementaire dans les semaines qui viennent. Je note seulement, en l'état actuel des choses, que sur la liste des signataires qui ont été à l'initiative de ce texte dont je parlais, Nicolas Dupont-Aignan, il y a des gens issus de courants dissidents qui tendent à se coordonner maintenant. Que ce soit Nicolas Dupont-Aignan, que ce soit des personnalités issues de l'UMP comme Michel Vianès ou Thierry Giorgio, du MRC comme Christine Tazin, Gilles Bourdoulex, député du Maine-et-Loire dont j'ai parlé tout à l'heure, Lionel Luca dont j'ai parlé tout à l'heure. Moi, ça me rappelle des juxtapositions un peu nauséeuses et le fait que Manuel Valls les ait rejoints ne me rassure pas particulièrement. Je parle du texte qui a été publié avant la mise en place de la commission Gérard. Je rappelle que l'historien Gérard Noiriel dit ceci. Au cours des années 30, beaucoup de journaux ne survivent que grâce à des financements occultes versés par des patrons inquiets de la radicalisation des luttes sociales. 1930, rappelle Noiriel, c'est l'année du lancement de Je suis partout de Pierre Gaxot, qui le présente comme le représentant d'une nouvelle génération d'intellectuels qui refusent la logique des partis. Droite, gauche, dit Gaxot, autant de mots sans signification pour une grande partie de l'élite des jeunes générations. Alors, Gaxot, qui était un grand équilibriste, a quand même fini à l'Académie française après, Mais au départ, il est à l'origine de ce qui va devenir Je suis partout et le principal creuset de l'antisémitisme sous l'occupation. Je suis allé voir, et je terminerai là-dessus parce qu'après j'en ai trop, pour engager la discussion, un peu ce que faisaient les gens, des gens que je respecte, même s'ils ne sont plus tout à fait à la mode.
Radio Campus, une radio libre, associative, non commerciale et sans publicité. Et vous pouvez retrouver sur la bande FM 106,6 et sur internet www.campuslille.com.
La révolution russe a dû d'emblée s'intéresser à l'islam politique, mais aussi aux coutumes et à la charia, parce que la Russie, l'Empire russe et l'Union soviétique, ensuite, est un pays dans lequel la religion musulmane a toujours une emprise très grande sur les populations, notamment du Sud. Dès 1917, face aux nécessités de la guerre contre les puissances impérialistes, puis à la guerre civile, engagée par les Blancs à leur côté, ils s'adressent à tous les ouvriers musulmans de Russie et de l'Orient. Ouvriers musulmans dont les mosquées et les lieux de culte avaient été détruits, dont la foi et les traditions avaient été piétinées par les tsars et les oppresseurs de la Russie. Les bolcheviks s'engageaient ainsi, « Vos croyances et vos coutumes, vos institutions nationales et culturelles sont pour toujours libres et inviolables. Sachez que vos droits, comme ceux des autres peuples de Russie, sont sous la haute protection de la Révolution et de ses organes, les soviets des ouvriers, soldats et paysans, et c'est signé Lénine Vakitov. » Ça a été inspiré très largement par un type dont j'ai eu du mal à trouver des œuvres en français, mais j'ai fait traduire par un copain de l'anglais, et pas du russe, qui s'appelait Sultan Galiev, du comité révolutionnaire de Kazan, et qui a été le commissaire aux affaires musulmanes des premières années de la révolution russe. En 1917, à Petrograd, le congrès des musulmans, c'était comme ça que ça s'appelait, que les soviets l'avaient mis en place, se vit restituer un Coran qui avait appartenu au calife Osman et avait été saisi par le gouvernement tsariste en janvier 1918. La mosquée du Caravansérail fut restituée au Bashkir d'Orenbourg, etc. En outre, la publication par le gouvernement de la Russie au début de 1918 des traités secrets du tsar concernant les musulmans de l'Empire ottoman renforça considérablement le prestige du gouvernement de Lénine aux yeux des musulmans de Russie. Après la mort de Vakitov, qui fut capturé et fusillé par les Blancs, la figure emblématique fut Don Sultan Galiev. Et dans un discours qui participa à la guerre civile, dans un discours publié dans « Comment la révolution s'est armée », et ça regroupe les écrits militaires de Trotsky, mais seul le premier tome a été publié en français il y a bien longtemps, et qui est épuisé, on trouve le passage suivant. Donc traduit d'un site américain. Le camarade Zinoviev a mentionné les événements du Caucase. Sur ce point, je ne peux pas m'empêcher de vous lire une nouvelle récente que j'ai reçue par télégraphe avant-hier de l'un des plus remarquables ouvriers de Transcaucasie et qui a désormais fait son chemin en Russie soviétique. Né au Caucase, c'est un camarade très bien informé qui, sur la base de ses observations personnelles pendant la période de plus d'un an où il a été séparé de nous, présente une illustration de la situation aujourd'hui au Caucase. L'opinion publique dans tout le Caucase concentre sur la révolution des peuples montagnards du Caucase, les Daghestans, les Ingouches, les Tchétchènes, les habitants du Karabakh, qui a débuté à la fin du mois d'août. Les initiatives et les dirigeants de la révolte sont les chefs spirituels, les mollahs, des montagnards qui ont toujours marché avec le peuple et pour le peuple. À part une poignée de traîtres parmi les officiers qui se sont vendus à Denikine, tous les secteurs des peuples montagnards, sans aucune aide de quiconque, mais poussés au désespoir par les atrocités de Denikine, ont refusé obstinément de payer la contribution qui leur était imposée ou de fournir les régiments exigés d'eux pour lutter contre le pouvoir soviétique. Sans d'autres armes que des couteaux et des carabines, c'est-à-dire sans mitrailleuses ni artillerie, ils se sont lancés à corps perdu dans une sanglante bataille contre l'officier cosaque. Et Trotsky conclut, ce sont les montagnards, les paysans pauvres assoiffés de liberté, venus des montagnes, qui se sont dressés contre les insultes, l'oppression et la torture qu'ils ont subies de la part des bandes de Denikine, les Russes blancs donc, et nous leur disons, bienvenue camarades montagnards, nos nouveaux alliés, prenez la place d'honneur dans notre famille soviétique. C'est une autre tonalité. Donc j'ai dit que Galiev avait rang de commissaire du peuple, et je voudrais en dire un petit peu parce que ça correspond, vous voyez qu'en Inde, il y a des affrontements intercommunautaires aujourd'hui entre les hindouistes et les musulmans. Or, Sultan Galiev, dirigeant bolchevique, a influencé, qui a été fusillé par Staline en 1940, sage, a influencé des milliers de révolutionnaires, notamment en Indochine et dans les Indes britanniques. Et notamment la pensée de, alors je ne sais plus les deux premiers de son prénom, on l'appelle toujours M.N. Roy, membre de l'Internationale communiste et combattant de l'indépendance indienne, qui nous a été présenté par Babu Kojineni lors du congrès de Bombay de l'IHEU en 1999. En tout cas, il y a un numéro de la revue de l'IHEU que nous diffusons qui est consacré partiellement à Sultan Galiyev. C'est quelqu'un qui a beaucoup influencé les nationalistes, musulmans ou pas d'ailleurs, d'Indonésie contre les Hollandais, d'Inde contre les Anglais, d'Égypte contre les Anglais ou les Turcs, etc. En tout cas, il y avait un sujet qui ne faisait guère débat parmi les recommandations de Sultan Galiyev, c'est la patience vis-à-vis des coutumes musulmanes. Et ils avaient créé, les bolcheviks, une organisation qui s'appelait le Zenotel, section féminine du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, fondée en 1918 par Alexandra Kollontai, Inessa Armand, Nadezhda Krupskaya, Concordia Samoïlova, Nikolaeva et Lilina, allant jusqu'à porter le voile intégral, les nanas, pour porter la propagande rouge chez les femmes musulmanes d'Asie centrale. Nombre de militantes du Zenotel y laissèrent pourtant la vie. En tout cas, cette politique fut progressivement remise en cause sous l'autorité de Staline à partir de 1922, pas seulement de Staline d'ailleurs, avec un tournant brutal et dramatique en 27. En 27, d'après un rapport de Trotsky, on tint des meetings de masse au cours desquels des milliers de participants scandaient « Abat le Paranja », qui était le nom local d'un voile intégral, déchiraient leurs voiles qu'ils imbibaient de paraffine et brûlaient. Protégés par la police, des groupes de femmes pauvres parcouraient les rues, arrachant le voile des femmes plus riches. Oui, il y a un bouquin fort intéressant aussi, qui s'appelle Léon l'Africain, mais pas le roman. Un type qui a fait une thèse d'histoire sur ce personnage. Certains ont peut-être lu le roman d'Amin Malouf là-dessus, sur le personnage qui a donné son image à ce roman. Et il expliquait à l'époque que seules les femmes de des classes aisées pouvaient porter le voile intégral, parce qu'avec ça, vous ne pouvez pas beaucoup bosser. Et donc, ça avait un double usage. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique une partie des formulations d'un des hadiths auxquels il est fait parfois référence. Et ce qui explique là aussi la formulation qui a été employée, c'est que ça servait non seulement à cacher le visage, mais aussi à cacher les bijoux, voire dans la période de famine de l'Union soviétique de l'époque, à cacher de la nourriture pour la transporter, parce que justement ces femmes aisées avaient de la nourriture alors que les femmes du peuple n'en avaient pas, et ça leur permettait de faire le marché noir. Bon, il y avait des fois on n'y pense pas à ce genre de truc. Bien. Alors, le jour suivant, donc, ils ont fait une action exemplaire. Le jour suivant, ces actions sectaires et brutales furent payées au prix du sang, les centaines de femmes sans voile furent massacrées par leurs familles, et cette réaction fut exacerbée par le clergé musulman qui vit dans les récents tremblements de terre la punition d'Allah pour les refus de porter le voile. D'anciens rebelles basmachis se rassemblèrent en une organisation secrète contre-révolutionnaire qui se développa grâce à leur engagement à préserver les valeurs et les coutumes locales, ça s'appelait le NARC. Je vais passer sur le port de la soutane, parce qu'on s'en fout un peu, mais simplement indiquer que là aussi, il y a une évolution du costume ecclésiastique qui est passé d'une banalisation assez remarquable à l'imposition du port de la soutane, puis à la mise en désuétude du port de la soutane et à l'adaptation à d'autres codes sociaux de façon contemporaine, depuis le blouson noir du père Gilbert jusqu'aux prêtres ouvriers et leur bleu de chauffe. Mais ça correspond dans tous les cas à une stratégie politique ou d'évangélisation, c'est la même chose. Ratzinger a revêtu dans sa jeunesse d'autres uniformes et a aussi compris que ces temps-là étant dépassés, attendons la suite. À moins évidemment que l'on ne revienne en arrière et que l'on ne réinstaure des tenues interdites et des tenues autorisées. Quelqu'un que vous connaissez sans doute ici, parce que je crois qu'elle enseigne dans le coin, Catherine Kinsler.
Elle enseigne plus.
Favorable à la loi de 2004 sur le foulard islamique, mais à qui j'ai déjà débattu avec elle, réussi dans un débat à faire condamner l'article 10 de la loi Jospin de 1989, qui précisément autorise l'expression religieuse et politique dans les lycées, et sur laquelle on a pris ensuite le décret qui a été soumis ensuite au Conseil d'État. Il y avait une législation, il y a eu une vie avant 1989. Bon, et avant 1989, il y avait un texte qui s'appliquait. Ce texte date de 1937. C'était un texte qui était pondu par Jean Zay, ministre socialiste de l'éducation. C'était le premier ministre de l'éducation, d'ailleurs, je reviens à l'époque, parce qu'avant, ça s'appelait l'instruction. Mais Jean Zay, c'était l'éducation. Ce texte disait tout simplement, par une simple circulaire, bien entendu, tous les vêtements et signes religieux distinctifs politiques ou religieux restent à la sortie de l'école. Et nous faisons confiance au chef d'établissement pour appliquer ça avec tact et mesure ou quelque chose comme ça. Bon. Catherine Kissler, pour revenir à elle, j'ai lu son blog et je le lis régulièrement. Elle développe une casuistique qui m'a fait penser, moi, aux interrogatoires des sorcières d'un bouquin que je ne vous recommande pas parce qu'il est un peu impressionnant quand même, puis il est gros, il fait 600 pages à peu près, de pratique de l'Inquisition. Ça s'appelle le Maleus Maleficarum, le marteau des maléfices. Et c'est un excellent ouvrage rédigé par deux inquisiteurs. Ils disent là-dedans que si une sorcière n'avouait pas, il fallait continuer à la torturer, parce que bon, il fallait qu'elle avoue. Et si la douleur la faisait avouer contre promesse d'arrêter la torture, il fallait la mettre à mort parce qu'elle avait avoué. En revanche, si elle n'avouait pas, la torture devait continuer et avait souvent pour effet une hébétude et une démence qui prouvaient bien la possession. Donc il fallait la mettre à mort. Ainsi, dans son billet du 22 juin 2009, elle est toujours en ligne, Catherine Kissler examine trois cas d'interdiction qu'elle repousse. Parce que, bon, c'est quelqu'un qui non seulement réfléchit, mais d'une intelligence qui dépasse très largement la mienne, donc elle analyse les choses. Premièrement, le signe religieux. Mais cela poserait trop de problèmes de liberté publique, elle l'admet. Deuxièmement, l'oppression des femmes. Mais il faudrait leur faire avouer cette oppression. Et c'est souvent le contraire qui se passe, dit Catherine Kissler, quand on les interroge. Troisièmement, le déni d'identification, mais cela poserait un problème de circonstance, parce que ça voudrait dire qu'on renonce à à autoriser le masque. Et je reviendrai sur cette question-là, parce qu'il a été de nouveau, à propos des affaires de Poitiers récemment, question de mesures de police supplémentaires contre les cagoules, etc. Je voudrais indiquer simplement que... Non, je passe, parce que c'est pas la peine. Donc, malgré tout, Catherine Kissler se prononce pour une loi. Je ne suis pas sûr que sa position soit définitive. Franchement, j'ai toujours eu envie de discuter avec Catherine Kissler. Dans le bouquin qu'on vient de sortir, « Qu'est-ce que la libre pensée ?», on recommande de nouveau ses œuvres, etc. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui est d'une très grande qualité, mais je pense qu'elle est sans doute mal entourée. Bien. Mais parce qu'elle emploie un argument, elle dit « Quand il y a une burqa, il n'y a plus de femmes ». Or, la femme, c'est l'atome constitutif de l'humanité civile, politique, sujet et auteur et finalité du droit qui est abolie. On ne voit plus, tache aveugle et aveuglante, que la trace noire de son effacement. Et là, je dis, c'est très difficile d'entendre cela. Parce qu'il faudrait la forcer, dans ce cas-là, parce qu'elle s'est mise en dessous de l'humanité. Elle n'existe plus comme femme. Donc il faudrait la remettre à l'humanité par un geste d'autorité de l'État. Eh bien, je pense que ça, c'est extrêmement dangereux comme raisonnement, parce que ça donne à l'État, paradoxalement, sur le corps de la femme, un droit qui ne lui a jamais été donné jusqu'à présent. À force d'aligner des sophismes, Mme Kissler a tenté de minimiser le fait que la mesure qu'elle réclame serait applicable dans tous les lieux accessibles au public, ce qui nous ramène au début de notre propos et formule une définition de l'espace public assez proche, finalement, des traditions de l'Ancien Régime dont j'ai parlé tout à l'heure, avec des possibilités d'intervention théorique de la police assez étonnantes. Quelles sont les racines de l'appréciation de Mme Kissler? Du moins, c'est à mon point de vue, évidemment. Je me disais peut-être qu'avec un peu de chance, elle viendra, Daniel.
Bien. Elle habite Paris. Hein.
Elle habite Paris maintenant?
Elle avait un appartement sur l'île.
D'accord. Pour ma part, j'en vois au moins deux. D'abord, elle a une conception de l'État que je ne partage pas. Celle de l'État comme régulateur légitime de la vie sociale. Mais enfin, ça, dans la libre pensée, on a des avis tout à fait différents là-dessus. Pour moi, l'État, c'est une machine d'oppression avant tout et pas un régulateur légitime de la vie sociale. Mais ça ne me pose pas particulièrement de problème puisqu'on en débat couramment dans la libre pensée. Mais ensuite, elle fait peut-être à son corps défendant référence à une conception très chrétienne des rapports entre le visage et la personnalité. Et c'est là que je reviendrai sur notre petit de grand colloque de samedi dernier sur le statut de l'embryon. Puisque un des professeurs de médecine a indiqué, dès lors, tous les trucs des commandos anti-avortement, c'est de montrer un fœtus qui ressemble à un bébé et en disant « ils écrabouillent ça avec leur salmanteur ». Bon. Et puis, donc, on fait une analogie, bien évidemment, avec le meurtre. On dit même que c'est un meurtre. Et, bon, eux, ils ont montré que le débat sur les cellules souches et sur le statut du fœtus, éventuellement, qui, bon, ils ont montré à des dames ce que c'était, au microscope et tout ça, etc. On dit « Oh, c'est ça !» Bon, comme ça ne ressemble plus à quelque chose d'humain, ça n'est donc pas humain. Alors, les calotins ont réussi à faire passer dans le langage courant l'expression « personne humaine ». Et un des intervenants, un des profs, je ne sais plus lequel, a dit « mais la personne humaine, qu'est-ce que c'est ?» Et c'est, si vous regardez la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il n'y a nulle part. Personne, je vais bien, mais humaine. Ça. Et lui, il a posé la question « connaissez-vous une autre personne que la personne humaine ?» Il n'a pas eu de réponse. Mais oui, j'en connais une. C'est la Sainte Trinité. C'est la personne divine. Et effectivement, l'Église a forgé cette expression « personne humaine » parce que l'homme, par son physique et par son âme, n'est que le visage de la divinité. Il n'existe pas autrement que par sa ressemblance avec Dieu. Et cette question-là fait référence précisément à la question du masque. Et il y a fait référence aussi, puisque qu'est-ce que c'est que la personne ? Personare, sonner à travers, c'est le masque du comédien à Rome. En grec, c'est prosopo, le visage, qui signifie à la fois le visage, le masque et la personne. Et la relation de l'Occident avec le visage est absolument liée à cette analogie entre le fait de montrer son visage et donc d'interdire qu'on ne le montre à point pendant la plupart du temps. C'est pour ça que le masque ne peut être porté que pendant le carnaval. Parce que le reste du temps, on doit montrer son visage. Parce que sinon, on est un démon à double face. Et au moment où s'exercent les rites d'inversion, au moment du carnaval, là, on peut se mettre des masques et faire les cons. Ça n'existe pas dans les traditions qui se réclament d'autres principes philosophiques. Alors, j'avais fait une blague là-dessus. Il y a un juriste qui dit, d'ailleurs, qui s'appelle Gilles L'Huillier, j'ai bien mené sa formule. Le masque, c'est... Alors, ça, c'est moi. Le masque, c'est pouvoir être à la fois soi et autre. Ce n'est donc pas loin d'être diabolique. Le droit de la personne et du corps pourrait être nommé le droit des masques, nous dit le juriste Gilles L'Huillier. Et je faisais une référence à Christian Van Est, qui, même si on a démenti l'intention, a été accusé de vouloir interdire le travestissement pour les tableaux. Mais ce serait dans la logique, de l'interdiction de la burqa, parce qu'il s'agit là aussi de se dissimuler pour jouer un double rôle, en quelque sorte. Bref, je pense qu'effectivement que l'angoisse sur l'identité personnelle est une composante de la réflexion contemporaine et que ça s'ajoute au reste. Sommes-nous bien homme ou femme ? Sommes-nous bien dans l'Occident chrétien ? Cette question-là, par exemple, vous avez le référendum, la votation sur les minarets en Suisse, le 29 novembre. Le parti d'extrême droite, le parti de Christophe Blocher, l'UDC, fait une votation d'initiative populaire, un référendum, pour faire inscrire dans la Constitution, article 3, la construction des minarets est interdite. Et l'affiche qui pose un problème actuellement, alors il n'est pas du tout question de la burqa là-dedans, sauf sur l'affiche. L'affiche de l'UDC, c'est une femme voilée intégralement, la Suisse traversée par une fusée iranienne qui est par-dessous, et non. Voilà l'affiche. Alors certaines villes de Suisse, dont Neuchâtel, j'ai vu aujourd'hui, parce que c'est là que j'ai des amis, ont interdit l'affiche, mais c'est la Suisse, l'Europe, ne peuvent pas être islamiques, et donc ils font cette propagande là-dessus. Mais ça va plus loin, puisque en même temps, il y a une autre votation à Genève sur l'extension du réseau ferroviaire du tramway de Genève, à Annemasse, et où le même parti fait une affiche « Non au tramway, non à la racaille française d'Annemasse ». Bon. Alors, c'est l'UDC, mais Christophe Blocher a été conseiller fédéral, ministre, l'équivalent de Premier ministre pendant un certain temps en Suisse, et sa position politique gagne du terrain. Nous savons tous, quant à nous, que cette croisade à des commanditaires. Des commanditaires qui, effrayés de la montée de la lutte des classes, de la résistance des peuples, n'hésitent pas à promouvoir tantôt la violence d'État, tantôt la préparation d'affrontements intercommunautaires. Les religions, islam compris à mon avis, sont toujours prêtes dans un contexte où, au cœur de la plus énorme crise que le capitalisme ait connue, les discriminations à l'emploi constituent un levier puissant. C'est vrai depuis toujours, mais l'Europe vaticane constitue un cadre particulièrement adapté. Ce n'est pas l'islam qui impose la fin du monopole de la poste et la destruction du service public. Ce n'est pas l'islam qui organise le lobby de la bioéthique contre lesquels on se bat avec les profs dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce n'est pas l'islam qui vient de faire voter la loi Carl sur l'obligation du financement par les communes de la scolarité des élèves qui vont dans le privé hors de la commune dans un nombre de cas qui ne va cesser de s'agrandir. Bien. Puisque dans le mécanisme de la loi, on pourrait revenir si vous voulez. Et il y aura un tract, hein, cette fois-ci, de la libre pensée. Là, on va sans doute attendre le 24 pour le mettre au point, le bureau. Mais on va faire un tract carrément sur cette question-là. Quant à nous, nous continuons à revendiquer la libre critique des dogmes, des coutumes et des interdits stupides, et le retour strict au respect de la laïcité de l'école et de l'État, l'abrogation des lois anti-laïques, et la non-application du traité de Lisbonne rejeté par les peuples, a refusé, et nous continuons surtout et in fine, a refusé de donner à l'auteur du discours de Riyad, j'en ai pas parlé mais quand même il faut y faire référence, le discours de Sarkozy à Riyad, de nouveaux moyens répressifs ici. À bas la calotte et vive la sociale. Je vous remercie.
Une question des plus cruciales va désormais être posée. Notre identité nationale, ou qu'est-ce que c'est qu'être français? J'ai une légère appréhension quand après maintes discussions on aura trouvé la définition, c'est de pas remplir les conditions. Je suis français par mes grands-pères, mes grands-mères, mon père et ma mère. C'est ainsi, je n'y suis pour rien, j'aurais pu être brésilien. Pour moi c'est net et sans mystère, athée gauchiste, un peu anard. J'ai peur de ne pas répondre aux critères, de ne pas correspondre aux standards. Abreuve nos sillons. Être français, mais qu'est-ce que c'est? J'avoue n'y avoir jamais pensé. Point des questions d'identité, j'ai bien d'autres chats à fouetter. Si être français, ça va pas de soi, épargnez-moi le mode d'emploi. Au diable les citoyens formatés, et vive la diversité. Abreuve nos sillons. Je suis français, quel privilège, dire que j'aurais pu être belge, anglais, italien ou danois, portugais, suisse ou même hongrois. Et si je vis dans un pays que le monde entier nous envie, mon pédigré n'est pas vraiment nickel, ma grand-mère était de Bruxelles. Quand d'aucuns chantent la Marseillaise, certains fachos ou supporters, je me sens plutôt mal à l'aise, j'ai un problème identitaire. C'est pas notre hymne national qui va nous remonter le moral. Être au chaume du ou bosser pour un SMIC, ça freine l'élan patriotique. Brandir le sanglant étendard, ça fait de plus en plus ringard. Et je me demande si par hasard, ça cacherait pas un plan vicelard. À l'approche des élections, ameuter les populations, poser les vraies fausses bonnes questions, gagner les suffrages des cons. Abreuve nos sillons. Dans toute cuisine électorale, on met toutes sortes d'ingrédients, et le grand débat national, citoyen, c'est surtout du flan. Avec Malika et Camille, on fera du couscous aux lentilles. Avec Marcel, Mamadou et Fares, on fera du cassoulet merguez. Avec Marcel, Mamadou et Fares, on fera du cassoulet merguez.